Sans conteste, l'apôtre Paul possédait une intelligence peu commune. Ses talents naturels étaient remarquables et il avait reçu la meilleure éducation possible. C'était un homme brillant et un orateur exceptionnel qui savait persuader ses auditeurs en utilisant des arguments logiques et rationnels. Une excellente chose quand on doit parler à des gens qui ne veulent pas vous écouter et en des lieux où on ne vous a pas invité. De plus, il savait parfaitement discerner le vrai du faux et débusquer Satan. Il parcourut toute l'Asie mineure, la Turquie actuelle, en long, en large et en travers. Il n'avait peur de rien ni de quiconque, bien qu'il ait subi toutes sortes de sévices de la part des Juifs, ses compatriotes qui le haïssaient avec passion. Malgré son immense stature, l'apôtre Paul était un homme humble, qui ne plaçait aucune confiance en lui-même car il savait qu'il devait tous ses succès à l'action de Dieu dans sa vie. Dans une de ses lettres, il écrit « Je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi ». Comme l'apôtre dépendait entièrement de Dieu pour tous les aspects de son existence et de son ministère, il demandait fréquemment à ses lecteurs de prier pour lui. Je commence à lire le 3e chapitre de la 2e épître de Paul aux Thessaloniciens. « Finalement, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. » Verset 1. L'apôtre priait fidèlement pour tous les croyants qu'il avait connus, surtout ceux qui avaient découvert le Seigneur grâce à lui. Mais il avait aussi besoin de leur intercession. Souvent en voyage, il était constamment confronté aux dangers, à des difficultés sans nombre et à la solitude. Il travaillait afin de se suffire à lui-même, bien que des dons occasionnels lui permettaient de consacrer alors tout son temps au ministère. Il comptait sur les prières des croyants pour lui ouvrir les portes et lui procurer l'aide divine dont il avait besoin pour faire face aux multiples problèmes et accomplir ainsi la tâche que Dieu lui avait confiée. Les mots « finalement, frère » donnent l'impression que nous arrivons à la fin de cette épître, mais en réalité, nous avons encore un bout de chemin à parcourir. En fait, « finalement » signifie « du reste », à côté de ça. Paul ne dit donc pas qu'il a terminé. Dans ses épîtres, il utilise plusieurs fois ce mot comme transition entre la partie doctrinale et l'application pratique. C'est le cas ici où il passe des événements de la fin des temps à la vie chrétienne de tous les jours. Littéralement, il dit « du reste, priez continuellement par rapport à nous », c'est-à-dire concernant nos besoins. Le grand apôtre Paul était soumis à Dieu et dépendait des frères pour accomplir son ministère. L'homme qui était le plus grand des leaders spirituels de l'époque demandait humblement à de tout jeunes croyants de le porter dans la prière, ce qui montre aussi qu'il croyait en son efficacité. Même ceux qui servent Dieu depuis longtemps et qui sont expérimentés ont besoin de l'intercession des autres. Dans le domaine spirituel, nul ne peut fonctionner efficacement seul. La première requête de l'apôtre est que son message, qu'il identifie comme étant la parole du Seigneur, se répande rapidement et soit glorifié. Il désirait que la révélation divine, tel un coureur à pied, conquiert de nouveaux territoires, c'est-à-dire atteigne un maximum de personnes. À la fin d'une autre épître, il demande à ses lecteurs « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Fin de citation. Paul avait plusieurs cordes à son arc. Il était évangéliste, missionnaire, pasteur et prédicateur. L'évangéliste est comme un obstétricien, il s'assure que la venue de l'enfant au monde se passe sans anicroche. Ensuite, c'est le pédiatre qui s'en occupe et qui doit régler tous les problèmes de la petite enfance, l'alimentation, les vaccins et les maladies. Le pasteur doit aider ses brebis à porter leur fardeau, mais aussi supporter jour après jour ceux qui ont un tempérament acariâtre et qui sont immatures. Il ne peut pas faire comme si ces gens difficiles n'existaient pas. et sa tâche est souvent ingrate. Un prédicateur itinérant, par contre, a une tâche plus facile. Il ne vient que pendant quelques jours et bénéficie du phénomène de nouveauté. Puis, avant qu'on se lasse de lui, il poursuit son chemin. Mais le pasteur est toujours là et les problèmes aussi. Paul avait amené les Thessaloniciens au Seigneur Jésus. Il les avait enseignés et était devenu leur pasteur. Maintenant, il les conseille, les exhorte, les réconforte et bien sûr, il prie pour eux. En retour, il désire que ses frères en Christ le portent dans la prière. L'œuvre de Dieu est un travail d'équipe où les francs-tireurs n'ont pas leur place. Dans la foulée, l'apôtre demande aussi à ce que la parole du Seigneur soit glorifiée, c'est-à-dire honorée. Il désire que ceux qui l'entendent reconnaissent son origine divine. C'est bien ce qui s'était passé à Thessalonique quand l'équipe apostolique annonça la bonne nouvelle. En effet, des Juifs et des païens acceptèrent leur message comme provenant du Dieu unique, le Créateur du ciel et de la terre. Ce n'est que plus tard que les choses s'envenimèrent quand les Juifs incrédules et jaloux soulevèrent la foule et déclenchèrent une persécution contre Paul, Timothée et Sylvain qui durent s'enfuir en toute hâte. Je continue le texte. « Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. » Verset 2. En second lieu, Paul demande à ses amis de prier pour qu'ils ne tombent pas dans les griffes des hommes iniques, car il était souvent confronté à cette race de chacals. Comme je l'ai dit, il s'agissait en général de Juifs incroyants. Mais il y avait aussi les religieux faux prophètes qui propageaient des erreurs doctrinales dans les églises et ceux qui, jaloux du succès de l'apôtre, répandaient des ragots afin de lui nuire. Mais les plus dangereux sont certainement les faux frères qui sont membres de l'église et remplissent les bancs. Aux responsables d'une église, Paul dit « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. » Et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Et l'apôtre Jean écrit, « Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. » La parole de Dieu tombe fréquemment dans de la mauvaise terre, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas écouter et qui ferment leur cœur à la parole de Dieu. Ce sont eux dont Paul dit qu'ils n'ont pas la foi. Non seulement ils refusent de croire, mais souvent ils deviennent hostiles à la bonne nouvelle et à la personne du Christ. Annoncer que la vie éternelle s'obtient en faisant simplement confiance à Jésus suscite souvent des réactions agressives. Par contre, si on dit aux gens qu'ils seront sauvés à condition qu'ils parcourent 1 kilomètre à plat ventre tous les ans, il n'y a pas de problème. C'est très curieux. Je continue le texte. « Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. » Verset 3. Dieu est fidèle dans le sens qu'on peut compter sur son appui et bénéficier de son aide pour faire face aux situations les plus dramatiques ou inextricables. Ça ne veut pas dire qu'on va chaque fois s'en sortir sans y laisser des plumes. Mais on peut être sûr que dans son infinie sagesse, Dieu a tout prévu et que ce qui arrive est sa volonté. Or, dans une autre épître, Paul écrit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Et ailleurs, il dit « Les épreuves qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez testés au-delà de vos forces. Au moment de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Fin de citation. En grec, c'est le même mot qui se traduit par « épreuve, test ou tentation ». Le croyant n'est jamais abandonné à son triste sort, car Dieu est toujours à ses côtés. De plus, il protège les siens des traquenards du diable. Satan se manifeste sous la forme de tentation, bien sûr, puisque c'est de cette manière qu'il a réussi à tromper nos premiers parents. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le diable est aussi un être malfaisant particulièrement violent. Dans l'histoire du patriarche Job, qui est racontée dans l'Ancien Testament, On lit qu'il a détruit et tué tout ce que cet homme possédait, ses enfants, ses troupeaux et la quasi-totalité de ses serviteurs. Son objectif au diable était d'inciter Job à maudire l'Éternel, sans succès d'ailleurs. Mais au lieu d'abandonner son projet, il est allé demander la permission à Dieu d'affliger le malheureux d'une maladie extrêmement douloureuse. Là encore, il a échoué. C'est un cas extrême et Dieu qui est fidèle ne permettra pas à la grande majorité des croyants de passer par une telle épreuve parce qu'ils seraient testés au-delà de leurs forces. Je continue le texte. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Verset 4. Tout le monde a au moins entendu parler des 10 commandements, ne serait-ce qu'au travers du film qui raconte la sortie d'Égypte des Hébreux. Mais en réalité, rien que l'Ancien Testament en compte plusieurs centaines de commandements. C'est vrai que nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Cependant, le Nouveau Testament est beaucoup plus exigeant que l'Ancien. Il n'y a qu'à lire le sermon sur la montagne pour en être convaincu. Or, Jésus a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Et juste avant de retourner dans les cieux, il a ordonné à ses fidèles, disant, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Paul aussi est particulièrement exigeant dans ses épîtres. Il possède l'autorité divine de commander à tous les croyants de tous les temps de se comporter d'une certaine manière. Les Thessaloniciens ont obéi, ce qui prouve que leur foi était réelle et qu'ils continueraient à se soumettre à toute la parole de Dieu. Je continue le texte. « Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. » Verset 5. « À cause de la fidélité de Dieu envers ceux qui lui font confiance et parce que les Thessaloniciens obéissaient au commandement de la parole de Dieu, Paul demande 2 choses. Premièrement, que tout obstacle soit ôté de leur chemin. C'est ce que le verbe « dirige » veut dire. Une fois la route dégagée, ces croyants pourront, d'une part, être plus conscients de l'amour de Dieu pour eux et d'autre part, en retour, aimer Dieu davantage. La forme grammaticale de la phrase exprime l'une ou l'autre de ces idées ou les deux à la fois. Paul demande donc que les Thessaloniciens baignent plus profondément dans l'amour de Dieu. L'amour est un fruit du Saint-Esprit qui seul peut le communiquer aux croyants et à travers lui. Ailleurs, Paul écrit « L'espérance chrétienne ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » En second lieu, l'apôtre désire que Dieu ôte tout obstacle afin que les Thessaloniciens aient davantage de patience à endurer les épreuves, en particulier les persécutions qu'ils subissaient. Je continue maintenant le texte. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. » Verset 6. Dans un contexte militaire, le mot « déréglé » signifiait « décalé », sorti des rangs. Il désignait aussi les apprentis qui faisaient non pas l'école buissonnière, mais pourrait-on dire le travail buissonnier. Plus loin, l'apôtre décrit ceux qui ont une vie déréglée comme ne travaillant pas et se mêlant des affaires des autres. Ici donc, Paul interpelle ces personnes, mais ne précise pas la raison pour laquelle elles étaient oisives. Il s'est déjà adressé à elles quand il était à Thessalonique et encore une fois dans sa première épître. Mais comme apparemment ces exhortations sont restées lettres mortes, l'apôtre quitte les gants et cette fois-ci il est direct et brusque. Le mot pour « recommandons » d'une part occupe la place centrale dans la phrase et d'autre part ce n'est pas une suggestion, mais un ordre. De plus, et pour donner davantage de poids à ses paroles, Paul souligne que ce qu'il ordonne ne vient pas de lui ni de Timothée ou de Sylvain, mais qu'il parle avec l'autorité du Seigneur. En conséquence, sa directive doit être obéie par tous, immédiatement et sans discussion. Pour souligner combien refuser de travailler est une faute grave, Paul ordonne à l'Église de bannir de telles personnes. Il veut que les membres de l'Assemblée les évitent et n'entretiennent plus aucune relation avec elles. Bref, elles doivent être traitées comme si elles avaient la peste en quelque sorte. Selon l'enseignement de Jésus, la demande de l'apôtre correspond à la troisième étape d'une action disciplinaire contre quelqu'un qui se dit croyant et qui est pris en faute. Je lis le passage. « Si ton frère a péché, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les péagers rapaces. » Fin de citation. Le fautif a rejeté tour à tour une visite individuelle, un groupe de personnes, puis l'autorité de toute l'Église. C'est à ce dernier niveau que se trouvaient les oisifs paresseux de Thessalonique qui ne voulaient rien faire de leurs dix doigts. Je continue le texte. « Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. » Versets 7 et 9. Versets 7 à 9. Le mot traduit par exemple a donné « mimique » en français. Donner l'exemple est l'argument le plus convaincant qui soit. Ce passage est comme un tableau dont le cadre serait l'exemple de Paul. En effet, il commence par « vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple ». Et ce passage se termine par « nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter ». Paul était, pourrait-on dire, l'archétype du christianisme, le point de référence et l'étalon mesure de la vie chrétienne. C'était un modèle d'honnêteté, d'intégrité, de douceur, d'humilité, de consécration, de sainteté et de conduite dans la façon dont il endurait les souffrances au nom de Jésus. Ici et là, dans ses épîtres, il avoue être parfois anxieux et impatient. Mais à part ces traits-là, il était une réplique quasi parfaite du Christ. D'ailleurs, il le dit lui-même quand il écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre était digne d'être imité parce qu'il a montré par sa vie comment le croyant devait se conduire. Quand il écrit aux Thessaloniciens « Vous savez bien, vous-même », Paul veut rafraîchir leur mémoire en leur rappelant qu'ils avaient vu l'équipe apostolique à l'œuvre et qu'elle ne s'était pas comportée d'une manière indisciplinée. Aucun de ses membres ne menait une vie déréglée. Au contraire, ils ont tous travaillé dur, jour et nuit, afin de n'être à la charge de personne. L'apôtre leur avait déjà dit cela dans la première épître. Je rappelle le passage. « Vous vous souvenez, frères, de nos travaux et de toute la peine que nous avons prise, tout en travaillant de nos mains jour et nuit pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons annoncé la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Vous en êtes témoins et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, juste et irréprochable. » Fin de citation. Paul était irréprochable. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui sont du gabarit de l'apôtre? Au responsable d'une autre église, il a dit « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes au milieu d'épreuves suscitées par les complots des Juifs. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. » Paul avait pourtant le droit d'être soutenu dans son travail missionnaire. D'ailleurs, il a reçu au moins deux fois une somme d'argent de la part de l'église de Philippe, et tandis qu'il se trouvait à Corinthe, d'autres églises lui ont fait parvenir des dons. Mais d'une manière générale, il travaillait. Il fabriquait des tentes qu'il revendait afin de subvenir à ses besoins. Lors de son premier voyage missionnaire avec Barnabas, les deux hommes arrivaient dans une ville où ils étaient totalement inconnus et où nul n'était croyant. il n'avait pas non plus réservé une chambre dans l'auberge du coin. Quelquefois, Dieu mettait rapidement sur leur route quelqu'un qui acceptait la bonne nouvelle puis qui les hébergeait. Cependant, la plupart du temps, Paul et ses compagnons devaient se débrouiller tout en comptant sur Dieu, bien évidemment. L'attitude de l'apôtre Paul vis-à-vis de l'argent était exemplaire. Il en faut pour vivre, sans plus, et l'ouvrier mérite son salaire. Par contre, il se souciait des pauvres, ce qu'il a dit et prouvé. Lors de son troisième voyage missionnaire, il a levé des fonds en faveur des croyants démunis de Jérusalem. Aujourd'hui, la situation mondiale n'est guère brillante à cause de l'hyperlibéralisme économique et du capitalisme sauvage qui donnent au plus fort le droit d'écraser les faibles. Mais je dois garder la tête froide et me rappeler des paroles de Jésus quand il a dit « Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. »